Marceline Michon.
Bonsoir et bienvenue dans ce journal. C'est un succès populaire. 50 000 visiteurs ont fréquenté la crèche aux 500 à Port-en-Truy. Les portes de l'église Saint-Pierre se sont refermées ce soir sur les quelques 1500 santons et les scènes qui ont évolué durant cette semaine. L'un des créateurs de la crèche aux 500, le Neuchâtelois Maurice Bianchi, revient sur une rencontre qui l'a particulièrement marqué.
C'était une rencontre un peu spéciale. Le jour de Noël, on a vu arriver une famille, la maman, le papa avec les deux enfants. L'expression de leur visage n'était pas vraiment à la joie. Et on s'est approché d'eux et ils nous ont dit, écoutez, voilà, moi j'ai perdu mon travail, je suis en fin de droit, on est vraiment ce qu'on appelle sur la paille. Et puis comme on n'avait pas d'argent, ni pour faire des cadeaux à Noël à nos enfants, ni pour faire vraiment un bon repas, on s'est dit on va aller visiter la crèche aux 500 puisque l'entrée était gratuite et on les a accompagnés. Lorsqu'ils sont repartis, alors ils n'étaient pas joyeux, ils ne sautaient pas de joie, mais ils étaient apaisés, ils avaient trouvé une certaine sérénité. Et c'est ce qu'on appelle pour nous cela notre nourriture spirituelle et c'est ce qui nous pousse à aller de l'avant parce que des rencontres comme ça, c'est merveilleux, ça va au-delà de tous les compliments qu'on reçoit, ce sont des expériences humaines et comme cette crèche aux 500, c'est la vie, c'est la nativité qui naît dans la vie de tous les jours, ben voilà, on trouve aussi les situations de la vie tout autour de la crèche et c'est ça qui nous nourrit et c'est ça qui nous motive.
80 bénévoles se sont succédés pour accueillir le public nombreux. Gérer une telle affluence n'a pas été problématique, selon Sylvie Girardin, catéchiste et bénévole.
Les gens sont déjà très disciplinés, donc il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là. Donc, parfois, il y a certains, parfois, quand ils ont vu la queue, ils repartaient, puis ils disaient, on viendra quand il y aura moins de monde. Il y a des gens que j'ai revus et d'autres qui m'ont dit, oh, mais on reviendra avec nos petits-enfants, on reviendra déjà une fois. Seul pour un peu regarder plus en détail, voir une deuxième fois, parce que c'est vrai que même moi qui suis venue plusieurs fois, chaque fois on découvre quand même toujours quelque chose.
La prochaine édition de la crèche aux 500 se tiendra dès la fin de l'année au temple réformé de Gland. Penser à la fin de vie, c'est pas la mort. Voilà le credo du nouveau podcast réalisé par le Jurassien Maï Biderman, qui propose des témoignages pour inviter à penser à la fin de vie. Une série de 8 épisodes des sections romandes de Palliative Suisse, en collaboration avec le magazine Génération, qui rassemble des témoignages et discussions personnelles entre proches. Maï Biderman explique que parler de la mort n'est pas forcément triste.
Je pense qu'une des craintes pour moi, c'était d'arriver avec des discussions qui auraient été un petit peu trop glauques parce que dans ce podcast, on convoque deux personnes qui sont proches, qui ont un lien amoureux, affectif ou familial ou qui sont amis. Et ces personnes, elles discutent de la mort, de leur propre mort. Donc, on avait peur que ça suscite un petit peu aussi que des choses qui soient tristes et très difficiles à entendre. Et en fait, deux personnes qui veulent parler ensemble de la fin de vie, c'est aussi deux personnes qui parlent de la vie et qui se racontent comment elles ont vécu ensemble et qu'est-ce qu'elles ont envie pour leur fin de vie. Donc en fait, les discussions, elles n'étaient pas si tristes que ça.
Vous évoquez des témoignages concrets auxquels vous avez été confrontés. Celui du père et de sa fille, Alain et Mélanie, m'a aussi, moi, beaucoup marqué. Racontez-nous cet épisode-là. C'est vraiment une belle discussion. Finalement, les personnes n'ont pas forcément déjà évoqué cette thématique ensemble en dehors de ce podcast. Vous les faites aussi parler, évoquer certaines thématiques.
Mélanie, elle est cérébrante laïque, donc elle fait des cérémonies pour des enterrements. Et puis Alain, il a toujours travaillé dans le secteur psychiatrique, il connaît aussi ce que c'est la fin de vie et puis parfois la mort. Et en fait, les deux, ils n'ont jamais vraiment parlé frontalement de leur fin de vie à eux parce qu'ils s'estiment les deux en bonne santé. Et ils remarquent un petit peu l'ambivalence de ça parce qu'ils savent tous les deux, de par leur expérience, que la mort, elle est parfois plus subite que ce qu'on le pense. Donc, ils sont tendus la perche pour aussi parler de leur fin de vie à tous les deux.
Il y aurait
toi,
rien
t'as
de
fait
pire.
Les directives anticipées.
Ouais.
Ah oui.
Ouais. Il y aurait rien de pire que de ne pas faire des directives anticipées et puis j'arrive plus à parler, j'arrive plus à dire ce que je veux ou ce que je ne veux pas. Ouais, je sais que je veux continuer à vivre même dans les dernières étapes quoi. Ouais. Comment je sais pas, mais je sais ce que je ne veux pas, ça c'est certain.
Vous voulez pas quoi?
Je veux pas souffrir, je veux pas avoir trop mal.
Moi, je me sens trop jeune pour faire des directives anticipées, mais je saurais même pas quoi mettre dessus.
Mais un caillou peut tomber sur la tête.
Je sais.
À pas d'âge, justement.
Oui, finalement, quel est l'effet de ces discussions, de ces enregistrements sur les témoins, sur les personnes que vous avez rencontrées?
Je dirais qu'on arrive à aller encore plus profondément dans le sujet et on arrive à aborder vraiment de qu'est-ce qu'on a envie pour sa fin de vie, qu'est-ce qu'on a déjà discuté ou pas, et on va sur des détails de est-ce que j'ai envie qu'il y ait du monde par exemple autour de moi dans mes dernières heures, est-ce que j'ai envie qu'il y ait de la musique, est-ce que j'ai envie qu'on me laisse seul parfois, comment j'ai envie qu'on me parle, comment j'ai envie qu'on s'adresse à moi. Et toutes ces choses-là, c'est difficile de les aborder si on ne va pas vraiment avoir cette discussion avec nos proches. Dans ces discussions sur la mort, on peut aussi identifier si nos proches ont déjà fait des directives anticipées, si nos proches connaissent aussi les possibilités qu'il y a d'être accompagné en soins palliatifs, et puis aussi de pouvoir désigner un ou une représentante thérapeutique, donc une personne qui, dans nos derniers jours et quand il faut prendre des décisions médicales, est consultée par le corps médical pour prendre les décisions qui s'imposent.
Retrouvez le lien vers le podcast « C'est pas la mort » sur rfj.ch. À Grindelwald, un skieur est décédé samedi après un accident dans le domaine skiable de la Petite Scheidegg. La police cantonale bernoise précise que cet accident n'a aucun lien avec la manche de Coupe du Monde de ski alpin. La victime, un ressortissant suisse de 81 ans, domicilié dans le canton de Berne, descendait une piste balisée lorsqu'il a chuté pour une raison indéterminée. Malgré les premiers soins, le skieur est décédé sur les lieux de l'accident. Une enquête est ouverte. Place à l'actualité sportive dans ce journal. Et l'événement majeur, c'était bien sûr la Coupe du Monde de ski alpin à Wengen. Le Norvégien Atleli McGrath a remporté le slalom cet après-midi pour la deuxième année consécutive. Il a devancé le Brésilien Lucas Pinheiro Broten de 47 centièmes et le Norvégien Henrik Kristoffersen de 81 centièmes. Côté Suisse, Loïc Meillard a terminé au pied du podium à 1 seconde 30 du vainqueur. Un résultat qui ne lui convient pas.
Frustration, je pense même pas que c'est le bon mot, c'est juste énervé de ne pas avoir réussi à montrer le ski que je sais faire et de ne pas avoir réussi à trouver les clés sur cette deuxième manche. Je pense que même si j'avais fait une grosse manche et puis que je suis quelques centaines derrière, là c'est de la frustration, mais en fin de compte, quand tu perds 8-9 dixièmes sur les autres qui peuvent partir avec le même dossard que toi, c'est juste de l'énervement et de la déception. Jamais trouvé le rythme, jamais trouvé le rail et dans ces conditions, ça pardonne pas.
La grosse performance du jour est signée Mathias Itten, 23e de la première manche. Le Zougois a réalisé une folle remontée pour prendre la 6e place finale. Il se retrouve ainsi sélectionné pour les Jeux Olympiques le mois prochain. Écoutez la réaction de Mathias Itten.
Ja, unglaublich. Also, ja, ich weiß eigentlich gar nicht was sagen. Ich habe heute, als ich gewusst habe,
c'est incroyable, je ne sais même pas quoi dire. Quand j'ai su que ça suffirait pour passer en deuxième manche, je me suis simplement dit, il faut skier avec le cœur, attaquer et on verra ce qu'il est possible de faire. Les premiers était inatteignable, mais ensuite les écarts, ils étaient petits, donc je me suis dit que tout était possible. C'était super, forcément en plus devant le public suisse, c'est vraiment génial. Mais je n'ai pas secret pour ces remontadas, je skie simplement avec plaisir, de la joie et ça fonctionne.
Un dossier réalisé par notre envoyé spécial à Wengen, Lydiane Gena. Plus loin dans le classement, Daniel Yule a terminé 18e du slalom cet après-midi. Prochain rendez-vous pour les slalomeurs dans une semaine à Kitzbühel. Ce sera la dernière course avant l'annonce de la sélection officielle pour les Jeux. Et on dévalait aussi les pistes de Coupe du Monde du côté des dames. Aujourd'hui, un super G s'est disputé à Tarvisio en Italie. C'est l'Allemande Emma Eicher qui s'est imposée 27 centièmes devant l'Américaine Lindsey Vonn et près d'une seconde devant la Tchèque Esther Ledecká. Comme hier en descente, les Suisses sont malheureusement restées bien loin des meilleures Helvètes. C'est Johanna Ehlen qui a pris la 13e place. Federica Brignone pourrait, elle, faire son retour en compétition mardi, victime d'une double fracture tibia péronée de la jambe gauche en avril dernier. La lauréate du dernier Grand Globe de Cristal est inscrite pour le géant de Plan de Corone. L'Italienne décidera de sa participation éventuelle peu avant le départ. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la Fédération italienne. Dans la région, le volleyball Franche-Montagne n'a pas tremblé. Les Tenyon ont battu Toggenburg 3-0 cet après-midi. Le match s'est terminé il y a quelques minutes dans la salle de Seignelégier en Liga. Victoire du VFM 25-19, 25-16 et 25-13. Le VFM qui a été accroché un petit set par les Saint-Galloises avant de pouvoir dérouler et faire tourner. L'équipe de Mélanie China a ainsi quasiment assuré sa place en play-off. Sixième de la hiérarchie, le VFM compte 12 longueurs d'avance sur la barre et son adversaire du jour, alors qu'il reste 4 matchs à disputer. En Super League de football, Servette et Zurich se sont quittés dos à dos un partout cet après-midi à Genève. Deux matchs sont encore en cours, c'est un partout entre Bâle et Sion. Et pour l'instant, Thun mène 3-1 contre Grasshopper. Et en hockey sur glace, deux matchs de National League étaient au menu cet après-midi. C'est toujours en cours, Lausanne-Rapperswil 3 partout. Même score, 3 partout entre Lugano et Langnau. On retourne sur la neige avec du biathlon et Amy Basserga qui a pris une belle 5e place aujourd'hui lors de la poursuite de Ruhpolding en Allemagne. Partie en 22e position, la Schwitzoise a effectué une belle remontée pour finir à 33 secondes de la vainqueur française Lou Jean Monod. Toujours en Allemagne, Nadia Kellin a réalisé le meilleur résultat de sa carrière dans une course individuelle de Coupe du Monde de ski de fond. La Grisonne a pris la 7e place du 10 km classique d'Oberhof. Elle a fini à 34 secondes de la Suédoise Moa Hilar. Et en snowboard, Jonas Hasler a pris le 6e rang en finale du slopestyle à Lax. Victoire du Français Romain Allemand dans les Grisons. Ça passe pour les numéros 1 mondiaux de tennis au premier tour de l'Open d'Australie. L'Espagnol Carlos Alcaraz a battu l'Australien Adam Walton en 3-7 aujourd'hui pour son entrée en lice. Dans cette première levée du Grand Chelem, la Bélarusse Arina Sabalenka a elle éliminé la Française Sara Rakotomanga en 2 manches à Melbourne. Côté Suisse, Simona Valtert fera ses débuts la nuit prochaine vers 2h30 du matin heure suisse face à la Française Varvara Gracheva. Stan Wawrinka entrera en lice vers 6h du matin contre le Serbe Laszlo Djere pour son dernier Open d'Australie. C'est un grand soir pour la communauté marocaine du Jura. Le Maroc dispute la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football à 20h. Portée par la ferveur populaire, le pays organisateur affronte le Sénégal dans une finale qui oppose les deux meilleures nations du continent. Les Lions de l'Atlas attendent un sacre dans cette compétition depuis 50 ans. Pour vivre ce match, l'Union marocaine du Jura a prévu de se réunir au Tabou à Moutier. Cette compétition peut donner un nouvel élan au football marocain qui co-organisera la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. C'est en tout cas l'avis du président de l'Union marocaine du Jura, Abdel Tajani.
Exactement. Bon, on voit que le niveau il est déjà bien haut, déjà avec la jeunesse UE21 et aussi avec les infrastructures, avec la Coupe du Monde en 2030. Et c'est vraiment un très très bon essai, puis il est déjà réussi par rapport à l'événement.
Tu as eu des travaux qui ont été menés pour accueillir cette CAN ?
Des travaux au niveau national, hein, vraiment dans des villes qui sont presque retournées. Ils élargissent les routes, les trottoirs, aussi pour la mobilité douce. Il y a vraiment un gros chantier au Maroc actuellement sur plein de plans, sur plein de défis, soit écologie, infrastructure. Et puis c'est déjà réussi, la première étape pour moi.
Les stades aussi sont à la hauteur de l'événement ?
Exactement, ils sont vraiment magnifiques. Et puis on entend des échos par rapport à la qualité des stades au niveau même mondial. Ils sont vraiment à la pointe. On a vu des jours où il pleuvait toute la journée, où ils ont pu jouer sans devoir intervenir pour sécher les terrains. C'est vraiment, même au niveau technique, c'est quelque chose qui est une première.
Abdel Tajani au micro d'Emily Moumentaler. Cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal se joue donc à 20h à Rabat. On termine avec la météo et il faudra encore prendre de l'altitude en ce début de semaine pour trouver le soleil. Stratus et brouillard vont persister demain en dessous de 800 mètres. Au-dessus, belle luminosité jusqu'à 9 degrés demain. Merci pour votre écoute. Passez une très belle soirée.